mon école, il y a deux Arabes. Ils s'appellent Omar et Mohamed. Et on est arabes en secret. On est des Arabes et on s'appelle à nos prénoms arabes.
Et pourquoi, ça veut dire quoi que vous êtes des Arabes en secret?
C'est parce qu'on ne veut pas que les autres ils le sachent et on se retrouve en secret tous les trois pour dire des choses arabes.
Et pourquoi vous voulez pas que les autres le sachent?
Parce que tout le monde croit qu'on est des Français.
Ah oui?
Oui.
Et du coup, vous vous retrouvez entre vous pour vous souvenir que vous êtes arabe?
Oui. Tous les jours. Sauf les vacances.
Et t'aimes bien?
Oui. Okay. C'est trop bien.
On n'a pas le même vécu, pas la même peine, pas la même vie, non, pas la même haine. 9-3, on ne vient pas du même game, marocaine de Ketama, on ne vit pas la même merde.
La seule façon de combattre le racisme, la xénophobie, c'est de remettre la mémoire en place et de dire aux gens, voilà ce qu'il y a, ce qui existe.
L'histoire est racontée par une bande de mythos.
Un pays sans justice est un pays qui appelle à l'émeute, un pays sans justice est un pays en danger. La France est aujourd'hui, doit prendre ses responsabilités et doit nous donner en tout cas ce qui nous est dû, qui est le droit et la justice. Et si on l'a pas, on ira la chercher. S'il faut qu'on soulève le peuple et le pays, on le fera.
C'est ma vie, allez wesh, c'est nos vies, allez wesh, c'est ma vie, allez wesh, c'est nos vies, allez wesh.
Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de La Vie des Nôtres. J'ai arrêté de compter et tant mieux parce que c'est bon signe, ça veut dire qu'on en a fait pas mal et qu'il en reste encore beaucoup à venir. Aujourd'hui on est le 8 mars, journée, je sais même plus, journée internationale des droits de la femme, mais pas que, des personnes minorisées, sexisées. On est avec vous, on est ensemble, on prend le plateau une fois de plus et ce soir on accueille une personne que j'ai eu l'occasion de rencontrer sur un tournage notamment et dont le parcours m'a beaucoup touchée, Myriam. Salut.
Salut, bonjour.
On a Roxane à la régie.
Salut.
Et on a Farah avec nous sur le plateau.
Salut.
Alors ce soir, on reprend un peu les vieilles habitudes et je pense ce que je préfère faire à la radio, c'est-à-dire un portrait, parler de parcours, de vie, de où est-ce qu'on en est, comment on grandit, comment on évolue, comment on est dans ce monde quand on est une personne racisée, une personne qui porte le voile, une personne minorisée, etc. Et je propose qu'on lance, avant de se lancer ensemble, une petite introduction musicale choisie par l'invité aujourd'hui. Un petit Kerry James, Lettre à la République, histoire de dire ce qu'on a à dire.
C'est vrai qu'elle est puissante, cette chanson. Comme toutes celles de Kerry James, d'ailleurs.
Ouais.
Ouais.
T'arrives à te souvenir de c'est quand que t'as commencé à l'écouter, genre la première fois que tu l'as entendue?
Alors moi, ça a été particulier. J'ai pas eu une grosse culture musicale. J'ai ma mère qui écoutait Céline Dion et mon père qui écoutait les Gypsy Kings. Donc, rien à voir avec Kerry James. Et c'est vraiment... à mon adolescence, en fait, que j'ai découvert son univers en me faisant mes premiers copains, du coup, quand je me suis installée en ville à Toulouse. Et j'ai vraiment accroché, mais à fond, parce que je suis pas hyper branchée rap, mais je trouvais que lui, c'était très posé, en fait, comme son, tu vois. C'est entre le rap, le slam, et c'est surtout le sens de ses paroles. Elles sont incroyables et hyper touchantes.
Super, je propose de les réécouter ensemble.
Hypocrites qui ont bâti leur nation sur le sang. Maintenant c'est riche en donneur de leçons. Pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant vous devez assumer. L'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés ce n'est que la main d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harki qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes. Et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. tout arrivé à son départ. Mais pensiez-vous qu'avec le temps, les négros mutrés finiraient par devenir blonds? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet. On ne s'intègre pas dans les ghettos français. Parqués entre immigrés, faut être censé. Comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre? Pyromanes et pompiers, votre mémoire est sélective. Vous n'êtes pas venus en paix, votre histoire est agressive. Ici, on est mieux que là-bas, on le sait. Parce que décoloniser pour vous, c'est déstabiliser. Et plus j'observe l'histoire, ben moi je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas un crash, je n'ai pas envie de vous dire merci. Parce qu'au fond, ce que j'ai ici, je l'ai conquis. J'ai grandi à Orly, dans les favelas de France. J'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance. Narcotrafic, braquage, violence, crime. Que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Claire Stream? Qui peut leur faire la leçon? Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds, de vrais voyous au constat. Bande hypocrite, est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Au cœur des débats sans cœur, toujours les mêmes qu'on pointe du doigt dans votre France des rancœurs. En pleine crise économique, il faut un coupable. Et c'est en direction des musulmans que tous vos coups partent. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs, plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques. Et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la République. Mon respect se fait violer au pays des droits de l'homme. Difficile de sentir français sur le syndrome de Stockholm. Parce que moi je suis noir, musulman, banlieusard et fier de l'être. Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment leur racisme sous couvert de laïcité. Rêve d'un français unique avec une seule identité. S'acharne à discriminer les mêmes minorités face aux mêmes électeurs. Les mêmes peurs sont agitées. On oppose les communautés pour cacher la précarité. Que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter. Comment aimer un pays qui refuse de nous respecter? Loin des artistes transparents, j'écris ce texte comme un miroir. Que la France y regarde si elle veut s'y voir. Elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même. Je suis pas en manque d'affection, comprends, je n'attends plus qu'elle-même.
Pas un manque d'affection, comprends que je n'attends plus qu'elle-même. C'est sur cette phrase que termine la chanson de Kerry James et j'en profite pour rebondir avec toi, notre invitée ce soir, Myriam. Bonsoir encore.
Bonsoir.
Ça va? Je vais essayer de ne pas faire de sursaut, de surprise à notre ingé son, mais c'est que je me sens un peu en joie ce soir, du coup je suis très très ravie de vous retrouver. Myriam, j'ai première question, comme ça du tac au tac, de but en blanc. Est-ce que t'aurais envie de nous raconter une anecdote de la première fois que tu t'es sentie différenciée ou t'as conscientisé le fait de ne pas être considérée comme, comme les autres, ou t'as vécu un acte raciste la première fois où tu t'es dit « Ah, qu'est-ce qui est en train de m'arriver ?»
Ok. Déjà, bon, je vais me présenter rapidement. Moi, je suis franco-marocaine. Enfin, j'ai toujours dit que j'étais franco-marocaine, mais en réalité, je suis franco-marocaine, italienne, espagnole et berbère. Du coup, j'ai deux parents voilà, qui sont d'origine différente. Et c'est pour ça en fait, que je ne me suis jamais attachée à une identité, on va dire, tu vois, à une nationalité ou à un pays plus qu'à un autre. J'étais moi et ça me suffisait amplement. Enfin, j'étais la fille de mes parents et c'était cool comme ça. Du coup, j'ai toujours... j'ai grandi libre, heureuse, comme une petite fille très épanouie. Et donc, je suis du coup musulmane de confession et je porte le voile, j'ai porté le voile très jeune. Et j'habitais dans la campagne de la banlieue toulousaine, enfin vers Naïoux. Et puis un jour, je prenais du coup le bus, c'était à Villefranche-de-Lauragais, et j'étais toute seule en fait. Et il y a une voiture qui est passée à fond. Et là, j'ai entendu sale arabe, tu vois. Et franchement, je me suis retournée. Bon, j'étais surprise déjà d'entendre quelqu'un comme ça crier parce que c'était hyper calme, tu vois. Mais en fait, il n'y avait vraiment personne dans la rue à part moi. Et j'ai mis du temps en fait à percuter que ben, en fait, c'était moi la sale arabe et qui parlait de moi, tu vois. Et c'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit « Ah ouais, du coup, je suis arabe. » Enfin, parce que ben, sale arabe, limite, t'as envie de dire c'est un pléonasme, tu vois, en France en tout cas. Donc du coup, je me dis « Ah ouais, ok, je suis arabe. » Et ouais, je pense que c'est vraiment à ce moment-là que, ben, que j'ai perçu en fait ma différence, en tout cas aux yeux des autres, en fait.
Et tu parles de ton enfance, du coup, à Nayux, qui est une ville, on peut dire une ville.
Ouais, aujourd'hui, ouais.
Moi, je la connais pour les escapades commerciales qu'on fait là-bas, parce qu'il y a plein de vêtements pas chers,
ouais,
de marques.
Ouais, ouais. Mais écoute, moi, j'y suis jamais allée, c'est marrant. Mais oui, j'ai grandi... Bon, en fait, pour tout dire, en fait, je suis née à Paris, en Île-de-France. Et je suis venue, bah, du coup, mon père ne voulait pas qu'on vive dans les grandes villes. Il trouvait ça complètement inadapté, que c'était pollué, que c'était plein de monde, plein de stress. Il voulait vraiment nous faire grandir, en fait, à la campagne. Et il les tenait vraiment. Donc, du coup, il a saisi une opportunité. C'était trouver une grande ferme, en fait, dans laquelle j'ai passé de nombreuses années, enfin, toute mon enfance et le début de mon adolescence. Et du coup, j'ai eu une enfance particulière parce que je n'ai pas été scolarisée. Du coup, moi et mes frères et sœurs, on a vraiment... Enfin voilà, j'ai passé clairement la moitié de mon enfance perchée dans les arbres et à courir pieds nus dans les champs, tu vois. C'était mon enfance, ça. Du coup, ouais, c'était cool.
Et du coup, pas scolarisé dans les institutions, mais scolarisé de manière alternative à la maison.
Ouais, exactement. En fait, aujourd'hui, ça s'appelle l'IEF, tu vois, donc c'est assez... Enfin, on en parle beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, ça a fait polémique, je pense, l'année dernière, puisqu'il y a eu des nouvelles lois en France pour venir réglementer un peu plus, voire interdire ce mode d'instruction. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, c'est pas le fait d'aller à l'école qui est obligatoire, mais c'est vraiment de donner une instruction, en fait, à son enfant. Et donc, l'IEF, donc c'est l'instruction en famille. Et moi, mes parents ont fait ce choix-là, donc il y a plus de 30 ans. C'était hyper novateur. C'est pas du tout quelque chose qui était répandu en France. On va dire que c'était vraiment chez les grandes élites... où on pouvait retrouver ce genre de schéma, tu vois, où ils scolarisaient leurs enfants à la maison, avec des cours particuliers, etc. Après, c'est plus quelque chose, voilà, qu'on trouvait dans d'autres pays en Europe, mais vraiment pas en France, à tel point que moi, quand j'étais petite, et que je disais que j'allais pas à l'école, mais j'avais tous mes pères, en fait, qui avaient mon âge, quand j'allais des fois dans des parcs, ou voir des copains de... Bah, des enfants de mes parents... Enfin, des copains à mes parents qui avaient des enfants, ils me disaient, mais c'est pas possible, tu vas pas à l'école, mais tu sais écrire, vas-y, écris. Mais vraiment, tu vois, ils me faisaient écrire mon prénom parce que j'étais obligée de leur justifier que non, mais c'est pas parce que je vais pas à l'école que je sais pas lire, que je sais pas écrire, tu vois. Et ouais, c'était particulier, enfin moi, à ce moment-là, des fois, je le vivais un peu comme un handicap parce que je me trouvais un petit peu en décalage. En fait, c'est en grandissant que je percevais ça un petit peu comme une différence, parce que du coup... Enfin, un élément marquant, c'est qu'on avait des voisins, justement, dans notre... C'était un chemin, donc à Nayux, il y avait plusieurs maisons, tu vois. Et on avait des voisins avec qui on s'entendait très bien. Et un jour, je suis allée les chercher. Et j'ai frappé à la porte et tout, et je dis « Oui, est-ce que François est là ?» Et là, sa mère, elle me dit « Mais c'est jeudi, il est à l'école. » Et là, je me suis sentie mais tellement ridicule, tu vois. Je suis rentrée chez moi bredouille et je me suis dit « Bon, bah, il serait temps de comprendre un petit peu comment ça fonctionne autour de moi. » Et bon, voilà, c'est des petites anecdotes qui font que, voilà, des fois, il y avait... Bon, tu vois, cette envie d'être un peu comme tout le monde. Mais à côté de ça, enfin, vraiment, ça a été moi, c'était un pur kiff parce que, du coup, j'avais vraiment aucune pression, en fait. Tu vois, j'entends mes copains qui me parlent des devoirs, tu vois, des souvenirs qu'ils ont des devoirs. Moi, les devoirs, je sais pas ce que c'est. Tu vois, je sais pas ce que c'est que de rentrer le soir chez soi et d'avoir des devoirs à faire. C'est un truc que je connais pas. Je connais pas, j'ai jamais vécu cette sensation. J'ai vraiment appris avec des façons vraiment pas scolaires. C'est-à-dire que moi, par exemple, je regardais des films et mon père, il avait rédigé un formulaire, en fait, que je devais remplir après avoir regardé le film ou le dessin animé. Et là, bah, je remplissais bah, le titre du film, les acteurs principaux, le résumé du film, je pouvais faire une illustration. Enfin, tu vois, en fait, c'était hyper créatif et à la fois, c'était sur des éléments concrets, en fait, de la vie de tous les jours. Tu vois.
Et j'ai le souvenir... Tu m'as raconté l'anecdote de ton apprentissage de la lecture que je trouvais très chouette, très, très significative et très beau, si tu as envie d'en dire deux mots.
Ouais, bien sûr. En plus, la lecture, c'est vraiment quelque chose que j'adore, pour le coup. Bah, du coup, moi, c'est quelque chose que j'aimais pas parce que j'avais une dyslexie. Et du coup, je me sentais en difficulté et moi, j'aime pas être en difficulté, tu vois. Du coup, je préfère toujours aller vers des choses où voilà, je cartonne, tu vois. C'est gratifiant, on va dire. En tout cas, à cette époque-là, j'étais plus... comme ça. Maintenant, j'ai beaucoup évolué, même à ce niveau-là. Mais j'ai mon père qui insistait. Par contre, voilà. Alors, autant il était vraiment hyper laxiste sur tout le reste, tu vois, il n'en avait rien à faire. Par exemple, moi, ma petite sœur, elle a appris à lire à 9 ans et il n'en avait rien à faire, en fait. Il ne se mettait pas la pression de se dire, oui, à 6 ans, il faut qu'elle sache lire. Non, vraiment, rien à faire, en fait. Elle lira quand elle aura besoin de lire quelque chose, elle trouvera les moyens de lire. Sauf que bon, moi je savais lire, du coup j'avais eu cet apprentissage et tout ça, mais j'aimais pas ça, parce que je galérais clairement. Et mon père m'a dit, mais écoute, j'avais 12 ans je me rappelle, il m'a dit, écoute Myriam, il faut absolument que tu lises, peu importe, tu lis ce que tu veux, mais je veux devoir lire. Donc bah écoute, je lui ai dit, écoute, moi la seule chose que j'arrive à lire facilement, c'est les oui-oui. Et franchement, c'était la honte, tu vois, j'avais 12 ans. Il me dit, mais c'est pas grave, lis les oui-oui, c'est pas grave. Et bah écoute, j'ai lu toute la collection, là, c'était les bibliothèques roses, je sais pas si vous avez connu, là, les bibliothèques roses et vertes. Et je les ai tous lus, puis après, ben du coup, c'était un entraînement, en fait. Et puis après, là, j'ai enchaîné avec le Club des Cinq, puis les Six Compagnons, et puis, enfin voilà, après, j'ai pu arrêter de lire, en fait. Tout ce qui me tombait sous la main, je le lisais, je le dévorais, et j'adore lire, en fait.
Trop bien. Et enfance, adolescence, Nayux, des mouvements spatiaux, l'Ariège, etc., etc. Ouais. Parle-moi un peu de tes pérégrinations.
Ok, du coup, là, ce qui s'est passé, c'est qu'à cette époque-là, comme je te disais, on était à Nayux et on était quand même très isolés parce que finalement, c'était quand même la campagne. Moi, ma mère, elle est marocaine, du coup, elle avait pas sa famille. Et du coup, on voyait pas beaucoup de monde, à part des fois, pendant les vacances scolaires, du coup, où nos copains de la ville venaient. Sauf qu'en fait, ça se terminait en fait en centre de loisirs et ma mère, elle se retrouvait clairement à faire l'éducatrice, la nounou. Puis en plus, voilà, elle aimait beaucoup monter des projets, donc elle nous faisait étudier les insectes dehors, regarder les fleurs dans les arbres, regarder les lapins, parce qu'on avait beaucoup de lapins, beaucoup de chats. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de choses à explorer. Donc elle aimait ça, sauf que finalement c'était pas du tout reposant, puis elle profitait pas non plus des copines, puisqu'elle, elle se reposait, mais ma mère, elle gardait les gosses. Donc à un moment donné, ça commençait à générer des conflits parce que forcément, tu vois, là, je te parle de tous les côtés positifs et tout ça, mais il faut savoir que dans tout, t'as le côté pile, t'as le côté face, tu vois. Et faut pas se voiler la face, voilà, il y a toujours des difficultés. Après, c'est comment tu les affrontes. Et moi, malheureusement, mes parents, ils étaient vraiment en difficulté à ce moment-là. Ma mère, elle était fatiguée. Moi, je le vois maintenant, j'ai deux gamins et je me dis, mais comment elle a fait avec quatre enfants à la maison, H24, dans la campagne, ouais, chapeau. Du coup, ça s'est terminé que mon père avait des copains qui étaient en Ariège. C'était des copains à lui, de Paris d'ailleurs. C'était un grand groupe de copains, ils se sont tous convertis à l'islam en même temps, et puis ils sont tous arrivés dans le sud. Il y avait d'autres copains aussi dans le sud. Et ils avaient tous acheté des maisons dans le sud. Donc ils nous ont proposé de venir passer des vacances. Donc c'était cool, ma mère les connaissait, ils s'entendaient super bien, et ils avaient plein de gamins qui avaient le même âge que nous. J'ai passé un été là-bas et je me suis régalée, enfin je me suis fait plein de copains, sauf que malheureusement ma mère y a peut-être un peu trop pris goût. Du coup avec ça, plus cumulé avec des personnes qui se sont initiées dans leur couple et qui l'ont fait clairement exploser, ils se sont divorcés et je me suis retrouvée à vivre en Ariège avec ma mère. Je me suis retrouvée en Ariège parce que ma mère voulait la garde, mon père voulait la garde. Et du coup, ça a duré très longtemps. Mais en attendant, j'étais avec ma mère. Et quelque part, malgré le fait que leur divorce n'a pas été... franchement, ça a été une grosse épine dans le pied, pendant très longtemps d'ailleurs. Mais à côté de ça, c'est quand même une période que j'ai beaucoup aimée. Parce que déjà, j'avais plein de copains. Et puis c'était la campagne aussi. Et mes copains étaient déscolarisés aussi, du coup. Eux, ils étaient au CNED. Donc le CNED, c'est un institut qui dispense des cours à distance. Et du coup, à ce moment-là, moi aussi, j'étais inscrite au CNED parce que mes parents ne pouvaient plus assumer, en fait. Il n'y avait plus d'équilibre du tout dans la famille. Enfin, ils étaient en plein divorce, en pleine séparation. Donc c'était plus simple pour eux de nous mettre un cadre, en fait, tout simplement. Du coup, ça a été ma première expérience des devoirs, d'ailleurs, tu vois. Et c'était cool. Moi, j'ai fait la 6e et la 5e en deux mois d'été pour rattraper le niveau, parce que voilà, il y a quand même un niveau à avoir quand tu rentres au CNED. Du coup, je suis rentrée la première année, c'était en 4e. Moi, c'était ma première année, c'était la 4e. Je me rappelle, mes parents m'avaient dit, ouais, si tu bosses bien, on t'achète ce que tu veux. Bon, moi, je voulais juste qu'ils se remarient, mais après, j'ai compris que ça marchait pas comme ça, tu vois. Mais à côté de ça, on avait des chevaux. Du coup, on avait un groupe de copains, c'était une fratrie de 4 aussi. Nous, on était 5, j'avais eu un petit frère entre-temps. Et du coup, en fait, on a passé 4 ans là-bas à s'auto-gérer complètement. On faisait nos plannings, on montait des enclos pour les moutons, on s'occupait de nos chevaux. Enfin, j'ai des souvenirs magnifiques, tu vois. Le plus beau, c'est un jour où il a neigé. Et du coup, bah, on avait bien compris que les chevaux s'étaient barrés, parce que vraiment, c'était une tempête de neige. Enfin, je te dis ça, il y avait genre 40 cm de neige. Et bah, du coup, on est parti hyper tôt et on allait chercher nos chevaux, tu vois, dans les forêts, en fait, parce que c'était vraiment... Là, c'était pas Naïux, là, c'était vraiment l'Ariège perdu, perdu, hein, vraiment. Un hameau. On n'appelle même pas ça un village, tu vois. Un hameau avec 8 maisons. Et voilà, on a cherché nos chevaux et je m'en rappellerai toujours parce que, tu vois, t'avais les flaques d'eau gelée, tu vois, c'était du cristal, enfin, c'était magnifique. Tu vois, c'était la Reine des Neiges, mais version, c'était moi la reine, tu vois. Et c'était génial, enfin. Moi, j'ai adoré mes chevaux, j'ai adoré leur parler, j'ai adoré communiquer avec les animaux, avec la nature. Et ouais, c'est des bons souvenirs malgré tout, tu vois.
Mais en tout cas, c'est super beau comment t'en parles. Et du coup, je continue la pérégrination des mouvements spatiaux de ta vie que tu m'as raconté. Et parce que moi, bah, du coup, je t'ai rencontré sur un tournage à la Rainerie et aussi parce que je connais le magasin que tu tiens. Donc comment on passe aussi de l'Ariège à la ville, à Toulouse?
Bah, comment on passe? On passe par le fait que ma mère, comme je disais, elle avait été très naïve à cette époque-là. Bah, du coup, voilà, sans jugement de valeur, mais voilà, elle était vraiment sous l'emprise de personnes malveillantes, hein, clairement, ceux qui avaient voilà, fait exploser le couple de mes parents. Et quand elle a voulu refaire sa vie, du coup, elle avait rencontré quelqu'un, bah, elle s'est rendue compte que bah, finalement, ils ne voulaient pas du bien, ces gens-là, puisque... Bah, elle était outrée qu'elle se remarie sans son autorisation, enfin, clairement, tu vois. Donc là, ma mère s'est dit, oulala, il y a un problème, j'aurais dû écouter mon ex-mari parce qu'il me mettait en garde. Et là, elle a dit, écoutez, à cette époque-là, il y avait un collège musulman qui avait ouvert sur Toulouse, et elle avait déjà commencé à envoyer mon petit frère et ma petite sœur là-bas. Et du coup, ça a été un petit peu un tremplin, en fait, pour partir. Moi, j'avais passé mon brevet à Foix. D'ailleurs, c'était la première fois que j'allais dans un établissement public avec mon voile. Et avec plein de gens de mon âge, tu vois. Et ouais, c'était marrant, mais c'était un peu, voilà, c'était un peu bizarre quand même. Je me suis dit, je suis vraiment très différente là. Mais du coup, bah, on en a profité pour déménager. Ma mère s'est remariée et on a déménagé à Blagnac. Du coup, j'habitais tout le temps avec ma mère à cette époque-là. J'étais tout le temps scolarisée au CNED et j'avais aussi des cours particuliers. Donc j'avais un professeur qui m'a suivie. En fait, à la base, il était sur Toulouse, et des fois, il venait en Ariège, et des fois, c'est nous qui allions dans le Gers, en fait. Parce que j'avais une copine aussi qui était scolarisée au CNED, et un coup, c'était chez elle les cours, un coup, c'était chez moi, tu vois. Et là, on s'est retrouvés à Blagnac, et là, je faisais des allers-retours, en fait, entre Blagnac et Naïux, donc un coup chez mon père, un coup chez ma mère. C'était délicat, tu vois. J'avais un proverbe que j'aimais beaucoup, c'était « Qui a deux maisons perd la raison ». Tu vois, et j'en profitais toujours dès que j'avais envie de passer mes nerfs pour dire ça à mes parents, tu vois. Ouais, donc, ouais, c'est à cause de vous, quoi. Ben, c'était une période, c'était l'adolescence, tu vois, donc je me construisais, j'étais en pleine construction, en pleine recherche de moi aussi. Et j'avais quand même une grosse pression parce que, bah voilà, du coup, j'avais quand même pas mal d'aptitudes. Bah, tu vois, j'étais scolarisée au CNED, pour te dire, en maths, j'étais la meilleure élève sur 200. Donc, il y avait 200 élèves qui étaient corrigés par le même professeur. Et j'étais la meilleure, du coup j'avais mon prof particulier de maths qui était à fond, c'est-à-dire que quand on était en troisième, bah, nous on était en seconde en fait. Et à un moment donné, moi j'en pouvais plus, j'avais des cours aussi d'arabe et c'est pareil, on avait un excellent niveau, donc on faisait carrément de la traduction de textes, de livres à haut niveau, tu vois. Et honnêtement, j'en pouvais plus. À cette période-là, j'ai dit moi je vais tout arrêter, ça n'avait aucun sens pour moi. J'ai aussi un père qui m'a beaucoup un peu orientée vers cet esprit-là, c'est-à-dire que quand ça n'a pas de sens pour toi, enfin, t'arrêtes, tu fais pas les choses parce que tout le monde les fait. C'est-à-dire que tu passes pas ton bac parce que tous les gars de 17-18 ans passent leur bac. Donc je me suis dit, je suis à Blagnac, j'ai plein de copains. Parce que du coup, ce qui est marrant, c'est que mes copains, je vous ai parlé là, du premier été que j'ai passé en Ariège, et j'avais des copains du coup qui eux aussi étaient là à ce moment-là et ont déménagé sur Toulouse. Et on s'est retrouvés sur Toulouse du coup, dans ce fameux collège musulman. Et là, je me suis fait plein de nouveaux copains, tu vois. Puis je suis un petit peu... voilà, j'ai des facilités dans les relations. Et du coup, là, ouais, c'était la grande éclate, tu vois. Là, c'était la grande éclate. C'était Bagatelle, Bagdad, la Rainerie, les scooters, les parties de tennis, les pizzas, les jeux de cartes. Et puis, dès qu'il y avait une maman qui rentrait, ben, on ressortait nos bouquins du CNED, qui étaient affreux. D'ailleurs, ça ne te donne même pas envie de lire. Là, ils ont vachement changé les designs. Mais franchement, je te dis qu'à l'époque, fallait s'accrocher pour... Enfin, voilà, fallait aimer les études pour ouvrir un bouquin du CNED. Et voilà, non, c'était plus sympa de jouer au Rami, tu vois. C'était plus sympa.
Et du coup, adolescence à Toulouse. Et toi, à ce moment-là, t'as envie de faire quoi? C'est quoi que tu te racontes de la vie? C'est où que t'as envie de chercher? C'est vers quoi que t'as envie d'aller?
Bah, du coup, moi, je sais qu'à cette période-là, enfin, je te disais que le divorce de mes parents, ça m'avait beaucoup attristée, en fait. Je me disais, mais c'est foutu pour toi. Enfin, vraiment, c'était un échec. Tu vois, je le vivais pour moi. Et je me disais, mais comment tu vas faire, en fait ? Tu pars de rien. Enfin, j'avais l'impression d'être amputée, en fait. Et c'est surtout que, déjà, à cette époque-là, je pense que les divorces n'étaient pas hyper répandus. En tous les cas, moi, autour de moi, il n'y en avait pas. Je voyais que des familles hyper unies, tu vois. Et je me disais, bah, ça alors, c'est une différence de plus, tu vois, manquait plus que ça. Et du coup, j'ai passé beaucoup de temps, en fait, chez des copains. Je dormais chez eux, honnêtement, parce que j'avais pas envie d'être chez moi. J'étais bien chez mes copains. Ça me permettait, en fait, de réfléchir toute seule, tu vois. Je me rappelle que je faisais de la balançoire, j'ai toujours adoré ça. Tu sais, ça te donne l'impression de voler. Et j'écoutais « Aller plus haut » de Tina Arena. Et je m'évadais, en fait. Et je me disais, ouais, un jour ça va le faire. Mais honnêtement, j'ai jamais eu, tu vois, de révélation, de me dire, ouais, j'ai ci, j'ai ça. Enfin, il y a quand même une petite anecdote, d'ailleurs, qui est marrante, c'est qu'à mes 12 ans, un jour, j'étais chez des copains, mes parents, et je suis tombée sur un bouquin, tu sais, là, les annales, là, les bacs annales, là, tu vois, de bac STG, et je sais pas pourquoi j'ai pris ce bouquin, c'était sur de la gestion, et j'ai commencé à le feuilleter, et j'ai dit, mais c'est génial, c'est vraiment génial. Et en fait, je remercie la dame qui était là à ce moment-là, parce que au lieu de me dire, c'est pas de ton âge, ou mais t'as 12 ans, t'es en 6e ou t'es en 5e à tout casser, elle m'a dit, si tu veux que je te l'enseigne, je te l'enseigne. Et elle m'a dit, tu peux le lire, tu peux le garder, tu vois. Et je me dis que quelque part, bah voilà, aujourd'hui, quand je vois un petit peu l'orientation professionnelle que j'ai prise, je me dis, ouais, finalement, la gestion, tu vois, c'était pas un hasard, en fait, c'est que c'est vraiment, ça me plaisait. Mais c'est vrai qu'à cette période-là, quand j'étais ado, j'avais beaucoup de copines qui se mariaient vachement jeunes et tout ça, et moi, c'était pas non plus mon délire. Et puis en plus, je me disais que si je me mariais, j'allais certainement divorcer et que ça allait être une calamité. Enfin, comme mes parents, vraiment, j'étais dans une spirale, mais infernale, tu vois. Enfin, infernale, je vivais très bien, j'étais très heureuse, mais dans ma tête, c'est comme si les choses étaient claires, en fait. C'est te fais pas d'idée, de toute façon, toi, tu n'as pas de chance. Donc voilà, c'est réglé, tu vois. Sauf que voilà, j'ai fait plein de rencontres, j'ai eu la chance d'être entourée de plein de copains, de plein d'adultes bienveillants qui m'ont toujours motivée. Je me rappelle d'un jour où je prenais des cours particuliers, du coup je vais te raconter après, pour mon bac aussi, parce que c'était du coup quand je voulais préparer mon bac. Ouais, parce que bon, voilà, bon, si tu veux, on va faire les choses dans l'ordre. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que bon, à un moment donné, je me suis embrouillée avec mes copains parce qu'ils avaient volé des pièces sur mon scooter, et puis que de toute façon, ça n'allait pas parce que voilà, il y avait des comportements qui me correspondaient plus, je me sentais plus alignée en fait avec moi-même, donc j'ai pris vachement de recul à un moment donné, et c'est là en fait où je me suis individualisée, tu vois. En fait, je m'inscrivais beaucoup dans le collectif avant, et là, je me suis recentrée sur moi. Bah, déjà, je me suis retrouvée un peu seule, et je me suis dit, va falloir trouver quelque chose. Et si tu veux, j'avais pas de pression. Ma mère, elle était déçue, parce que voilà, elle voulait vraiment que je fasse des études, que j'aille loin, etc. Sauf que moi, je voulais juste vivre, en fait. C'est ce que je disais à tout le monde. Je disais, écoutez, moi, je veux vivre. Et quand quelqu'un me croisait, il me disait, tu fais quoi, du coup ? Je disais, je vis, en fait. C'est une question avec laquelle j'ai toujours été mal à l'aise, genre tu fais quoi ? Et ça, c'est très français, en fait. On se définit souvent par notre métier, tu vois, notre profession ou notre cursus scolaire. Quand tu demandes à quelqu'un tu fais quoi dans la vie, c'est souvent je suis ceci ou je suis cela, tu vois. Et moi, ça me perturbait, tu vois. Je voulais pas être caractérisée, en fait, par un métier, tout simplement, tu vois. Donc, écoute, j'ai fait de la couture, j'ai commencé à faire de la couture. Bon, déjà, j'en faisais déjà un petit peu. Et j'en faisais pour mes copines, j'en faisais pour moi, donc c'est quelque chose qui me plaisait, mais je me voyais pas de commerce derrière, tu vois. C'était vraiment parce que ça me servait. Et à côté de ça, je maintenais quand même ma scolarité pour pas être en rupture scolaire. Donc, tu vois, c'était histoire de voilà, pouvoir réintégrer le système scolaire si jamais j'en avais besoin. Parce que quand tu sors du système scolaire, c'est un peu plus compliqué. Et voilà, puis après, j'ai pas passé le bac parce que j'avais pas envie de passer mon bac. Et là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai voyagé, je suis partie sur Paris. J'avais de la famille là-bas, donc je suis partie sur Paris. Et c'est là où je te racontais la rencontre que j'avais faite dans cette cité. En fait, c'était une cité avec des grands bâtiments, un petit peu comme à la Hainerie, etc. Et il y avait un parc de jeux, tu vois, entre les bâtiments. Et à Toulouse, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de personnes, noires de peau, etc. Et moi, c'était la première fois que je voyais beaucoup d'enfants qui soient arabes ou qui soient noirs. Et là, j'ai découvert en fait qu'il y avait des clans, tu vois, qui se parlaient mal entre eux et tout ça, et ça m'a perturbée, tu vois. Je me suis dit qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et c'était limite chacun son tour, chacun son jeu, chacun son coin. Et si tu veux, avant ça, j'avais déjà rencontré pas mal d'éducateurs spécialisés et ça m'intéressait. Enfin, j'avais, tu vois, lu les fiches de poste, etc., regardé en quoi ça consistait le métier. Et quand j'ai eu cette expérience-là, à Saint-Denis, je me suis dit, ah, mais c'est ça que je veux faire, je veux être éduxpée dans les quartiers, tu vois. Clairement, c'était une révélation, tu vois. Ouais, c'était vraiment une révélation.
Sur le mot révélation, Roxane, est-ce que je peux te perturber et lancer ma philosophie d'Amel Bent avant de reprendre et de revenir sur ce parcours EduxPé? On en reste ici, on va parler de ton passage de bac après,
ouais,
de l'école d'EduxPé, et enfin on en viendra à la partie que j'adore, celle de la couture, okay, et de la création de Mimosa.
Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit. Je reste le point levé, pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse mais pas martyr, j'avance le cœur léger. Mais toujours le point levé, lever la tête, bomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix, je suis l'as qui bat le roi. Jure incessante, moi je lèverai le poing. Encore plus haut, encore plus loin. Viser la lune, ça me fait pas peur. Même à l'usure, j'y crois encore et encore. Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Je ne suis pas comme toutes ces filles, qu'ont des visages, qu'ont des habits. Moi j'ai des formes et des rondeurs, ça sert à réchauffer les cœurs. Vie d'un quartier populaire, qui a appris à être fier. Bien plus d'amour que de misère, bien plus de cœur que de pierre. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, avec la force et le sourire. Le poing levé vers l'avenir, lever la tête, lever le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix. Je suis l'as qui bat le roi. Viser la lune, ça me fait pas peur. Même à l'usure, j'y crois encore et encore. Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé.
Rebonjour pour un petit portrait à moitié improvisé, parce qu'en vrai, on a déjà bien parlé avant d'être sur ce plateau. Du coup, Myriam, tu nous as raconté un peu ton parcours, ton enfance, ton adolescence, la manière dont tu t'es instruite, dont tu as commencé à appréhender la vie, qu'est-ce qui t'a amené à tel et tel endroit. Et maintenant, j'ai envie de te faire rebondir sur ton arrivée dans l'institution. Tu parlais par exemple tout à l'heure de première fois à collège, deux fois pour le brevet.
Ouais.
Est-ce que tu as envie de nous raconter cette fois ton bac?
Ouais, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai compris que je voulais être EduxPé, j'ai découvert que le concours, il était conditionné quoi, par l'obtention. Enfin, il fallait avoir ton bac, quoi. Donc je me suis dit, ah bah mince, il te reste 6 mois pour passer ton bac. Comment tu fais, sachant que je n'avais pas bossé depuis 3 ans? Du coup, je me suis réorientée vers mon professeur particulier qui me connaissait très bien, qui avait fait la 3e, 4e seconde avec moi. Et là, j'ai commencé à prendre des cours particuliers, sauf que bon, bah, j'ai vite vu que, qu'il ne croyait pas plus que ça en moi. Enfin, il me disait que voilà, avec autant de lacunes, il ne pourrait pas me faire obtenir plus de la moyenne. Et moi, je partais quand même sur un bac avec des gros coefs, en fait, en maths. C'était ma seule chance, en fait. Donc, quand il m'a dit « t'auras que la moyenne et je ne peux pas faire plus », j'ai dit « c'est hors de question ». Si t'es pas capable, je vais trouver quelqu'un qui est capable, tu vois, ne serait-ce que moi. J'ai entendu parler à ce moment-là d'un lycée, je sais plus comment, j'en ai entendu parler, mais un lycée privé sur Toulouse qui a accepté les filles voilées. On m'a dit qu'il y avait une étudiante qui avait étudié voilée, etc. Donc je me suis rapprochée de ce lycée. J'ai rencontré le directeur, donc il semblait plus inquiet par mon retard, mon supposé retard du moins, que par mon voile. Donc je me suis dit, bon ben ok, c'est cool quoi. J'ai trouvé un lycée qui m'accepte comme je suis. Sauf que j'ai vite déchanté. Le premier cours, j'étais avec une prof de maths. Je ne sais pas si elle écoutera, mais elle se reconnaîtra en tout cas. Et là, vraiment, j'ai vu tout de suite sur son visage que ça allait pas. De toute façon, tu le vois. Tu le vois tout de suite. Et là, bon, ben voilà, 10 minutes après, elle me dit « on va aller voir le directeur de suite, c'est pas possible. » Donc là, je vais voir le directeur avec elle et puis... elle commence à s'asseoir, elle était vraiment hyper stressée, elle en tremblait, et elle commence à s'indigner d'avoir une fille voilée dans sa classe, que c'est abject, qu'elle ne supporte pas les femmes voilées. Et vraiment, c'est la première fois de ma vie que j'entendais ça, sur moi en plus, tu vois, parce que là, la femme voilée, c'était moi, du coup. Le directeur, il semblait pas trop perturbé, tu vois, moi, je la regarde, tu vois, puis j'essaye de faire la pédagogue, et je lui dis, mais vous imaginez ce que vous dites ? C'est comme si moi, je disais, je ne supporte pas les femmes non voilées. Et là, elle me regarde et me dit oh, « mais qu'est-ce que vous dites ?» Je dis « mais on dit la même chose, en fait. » Non, et sauf que moi, je ne l'ai pas dit, en fait. Non, mais c'est scandaleux. Et enfin, bref, j'ai vu tout de suite qu'il n'y avait pas de dialogue possible avec elle. Elle est partie se calmer en fumant une clope. Moi, j'ai regardé le directeur, il m'a dit « bon, va falloir faire un petit effort. C'est vrai que l'ancienne étudiante, elle le portait en arrière, etc. » Bon, pff, j'étais là « ok. » Tu sais, t'enlèves le voile, t'enlèves quoi après, en fait? Clairement, tu vois. Du coup, je suis repartie un peu bredouille. Je me suis dit, bon, ça va pas être aussi simple que ça. Enfin, moi, mon objectif, c'était juste de passer le bac, en fait, et d'être éduque, tu vois. Sauf que là, bah, je me retrouve avec un nouveau challenge. Du coup, j'ai commencé à mettre le voile un petit peu en arrière, bizarre et tout ça. J'ai passé toute la semaine avec tous les professeurs. Ça posait pas de problème. Donc, petit à petit, je l'ai rabattu sur mon cou. Et puis là, je me sentais bien, je me sentais à l'aise. Personne ne me regardait de travers. Les copains étaient sympas. Et je reviens au cours parce que c'était la prof de maths et d'éco. Et là, elle me regarde et elle dit rien. Donc je me dis, c'est bon, c'est validé. Du coup, bah, les cours se sont enchaînés. De toute façon, elle n'avait pas grand-chose à me reprocher. Voilà, j'avais vraiment des aptitudes importantes en fait en maths. Moi, tu vois, j'avais des 19 et des 20. Sa classe, elle avait une moyenne de 4, tu vois. Donc j'ai envie de te dire, bon, tu vois, on est là pour étudier. On n'est pas là pour notre tenue vestimentaire ou pour se donner des avis en fait. Donc, bon, elle me jetait les feuilles comme ça sur la table avec mes prix, mais bon, ça comptait pas plus que ça pour moi. Après, c'est vrai que c'était un petit peu angoissant parce que dès qu'elle me voyait, elle se retournait. J'étais même pas en cours avec elle, hein. C'est quand elle me voyait traverser des fois les cours et tout ça, et puis elle se retournait, elle me disait « Myriam, attention !» Tu vois, c'était... Tu te dis « mais wow, laisse-moi tranquille !»« Myriam, attention, ça va pas passer aux examens. » Ça passera pas. Mais tu sais, c'était... Tu sais, t'as l'impression que c'est le serpent, là, dans Mowgli, là, tu vois. Et du coup, est arrivé... Bon, moi, j'ai vite compris que ce lycée, en fait, il m'acceptait parce qu'il acceptait beaucoup de personnes qui étaient acceptées nulle part. Donc, on était une super classe de gens acceptés nulle part, tu vois, soit pour absentéisme, soit pour, voilà, mauvais comportement, etc. Soit pas de niveau. Et j'ai fini par arrêter d'aller au lycée. J'avais fait une super rencontre dans ma classe et on s'est mis à bosser ensemble. Donc on révisait en fait. Le mois avant le bac, on révisait à fond, on bûchait à fond. Et vient le jour des examens. Donc comme je t'ai dit, moi j'avais arrêté pendant 3 ans. Donc je me suis retrouvée en fait à passer les épreuves de première et de terminale. Donc j'avais une bonne semaine complète au lycée, tu vois. Et là, tout se passe bien. Je me dis super et tout, c'est cool. Donc j'avais ma copine et j'avais une autre copine que j'avais rencontrée, je ne sais plus où. En fait, moi, j'ai plein de copines que je rencontre, je sais plus où. Bah, des fois, c'est dans le métro et tout, et on devient copines, tu vois. Et du coup, là, on était trois bonnes copines. Et on s'attendait, du coup, après les épreuves et tout ça. Et vient un moment donné, là, je sors en avance, là, de l'épreuve. Et je m'assois sur un banc, tu vois. C'était au lycée polyvalent. Salut, les gars. Là, je m'assois et il y a un monsieur qui passe. Il me regarde. Bon, tu sais, tout de suite, quand on te regarde, c'est que, voilà, t'es pas une jolie fleur, hein. Et il me dit... Vous n'avez pas le droit d'être là. Pardon. Je passe mon bac, c'est tout. Et il me dit, non, mais là, le voile, là, c'est interdit, en fait. Et je lui dis non, monsieur. Et là, je refais ma pédagogue, hein, comme toujours, tu sais, la fille polie, qui parle bien. Bon, c'était naturel, mais bon, voilà, tu vois, tu essaies de faire les choses bien, tu vois. Et je lui dis, je lui explique que je ne suis pas une élève de l'établissement, que je passe le bac en candidat libre, que pendant les examens, nous avons le droit d'être voilés, et qu'il peut aller voir le proviseur pour lui demander. Du coup, il me dit, d'accord, je vais aller voir, je vais me renseigner. Bon, je me dis, c'est cool, ça a marché. Il s'en va. Et il réapparaît pas très longtemps après. Il s'assoit à côté de moi, déjà à proximité. Et puis il me regarde, il me dit « Bah t'avais raison, t'as le droit de le garder. » Donc je me dis « C'est génial !» Enfin vraiment, tu vois, c'était une victoire pour moi. Je me dis « Mais tu vois, la communication, la positivité, vas-y Myriam, c'est cool, ouais !» C'est cool, quoi. Tu le fais pour toi, tu le fais pour les autres, c'est génial. Tu le fais pour lui, tu le fais pour la France, tu le fais pour le monde. Et là, il me regarde, il me dit « Mais du coup, là, t'es pas en examen ?» Je fais « Non, j'attends, mais je viens de sortir d'examen. » Il fait « Bah, tu dégages. » Et là, je l'ai regardé. Et je me suis dit « Mais quel enfoiré. » Bon, je l'ai dit tout bas, hein, dans ma tête. Et j'ai éclaté de rire, en fait. J'ai éclaté de rire et je lui dis « Bon, et ben dans ce cas-là, si je dois dégager, il va falloir appeler la gendarmerie pour qu'il me fasse dégager parce que moi, je bougerai pas. » Voilà, bon, moi j'étais très provocatrice. Hein. Autant je pourrais être pédagogue, autant si tu me cherches, bon, hein, je peux te puncher. Et là, il s'en va et il revient avec 8 personnes, donc que des adultes, parce que quand même j'avais 18 ans. C'est vrai qu'avec le recul, je me dis quand même, faut être fort hein, pour s'en prendre à un jeune, tu sais, en pleine période d'examen et être là à lui balancer des vacheries alors que, enfin, bref. Et puis là, ils arrivent à 8 comme ça et ils me disent « Oui, il faut sortir de là, t'as pas le droit de rester, tu dois partir, sinon t'enlèves ton voile. » Et puis ils parlaient tous, c'était une véritable cacophonie. Je les regarde comme ça et je dis, je regarde un monsieur, je lui dis « C'est vous le proviseur ?»« Non, moi je suis le cuisinier. » Et là, je dis « Waouh !» Je dis « Bon, écoutez, vous tous là, autant que vous êtes, allez voir le proviseur et vous saurez que j'ai le droit de rester ici. Voilé, ici, je bouge pas. » Sauf qu'entre-temps, tout le monde était sorti des épreuves. Donc là, tu te retrouves encerclé de 200, 300 élèves, tu vois. Tes copines, elles arrivent, elles comprennent pas ce qui se passe. Elles, elles sont pas voilées, elles sont pas musulmanes. Et moi, je me dis, bon, moi, je lutte, tu vois, je suis là, je suis debout. Sauf que là, je vois mes copines qui disent, allez, viens, on les suit, allez, viens, vas-y, viens, tu vois. Le regard des autres était trop pesant, en fait. Et donc, bon, je me résigne, je dis, ok, on va les suivre. Et là, on les suit jusqu'au bureau du proviseur, sauf que, au final, c'était pour attendre dans une pièce. Donc moi, mes copines, elles m'attendaient à l'extérieur. Et là, l'émotion prend le dessus, donc je commence à pleurer. J'appelle mon père pour lui raconter sur le trajet, en les suivant, et mon père, il commence à m'engueuler. Il me dit « Mais pourquoi tu pleures ? Faut pas pleurer ! C'est eux qui sont en tort ! Tu pleures pas ! Tu te relèves !» Et là, je me dis « Ouais, mais ça me saoule, mais ça me saoule. » Il fait « T'as pas intérêt à pleurer. Tu sèches tes larmes. Tu lui demandes son nom à ce connard. » Et là, du coup, je lui demande son nom. Il me donne son nom. Et là, il me dit « Ok, tu leur demandes à tous autour de confirmer son identité. » Et là, je les regarde tous comme ça. Je leur dis « Est-ce que vous confirmez son identité ?» Et là, je les vois qui se regardent entre eux en se disant « Mais qu'est-ce qu'elle... C'est qui cette fille ? Mais qu'est-ce qu'elle veut ?» On veut pas d'ennui, nous. Ah, vous voulez pas d'ennui. Et là, un autre mec qui était parti voir le proviseur sort et dit « Elle a raison, elle a le droit de porter le voile. » Merci, les gars. Merci pour ce spectacle. Bon, du coup, je m'en vais. Énervée, en fait, tu vois. Enfin, c'était même pas de la colère, en fait. C'était de l'agacement, tu vois. Puis je me dis, je suis là depuis lundi. Là, vous m'attrapez le vendredi. Vous me cassez la tête. J'ai une épreuve dans une heure. J'ai pas que ça à faire, quoi. Et je sors, bon, je fais une petite blague pas drôle à mes copines. Je leur dis, ouais, ils ont mis toutes mes notes, ils ont tout annulé. Et puis là, j'éclate de rire. Enfin, c'était pas drôle. Mais bon, du coup, bon, on est parti vite avant de rater l'examen. Puis on a passé nos examens. Et du coup, c'est vrai que ça m'a mis quand même une gifle mentale, tu vois. Parce que, du coup, je me rappelais des... Myriam. Tu vois, donc cette petite voix, elle me hantait. Et je me disais, j'ai encore 2 euros à passer. Alors, ça va pas passer, tu vois. Et franchement, je me suis posé la question de si j'allais l'enlever ou pas. Et en plus, le jour où je suis passée mon oral, tu vois, j'arrive et puis la cour, elle était longue. Tu sais, ça faisait comme la ligne verte, là, tu vois, là, le long couloir, là. Et je les voyais, je les ai revus, tu vois. Il y avait le jardinier et tout, parce que t'avais des gens qui avaient rien à voir dans l'histoire. Et ils me regardaient comme ça. Et moi, j'étais là, j'avais l'impression que j'allais partir je sais pas où. Et je me suis dit, j'entendais Myriam. Et puis je regardais. J'étais là, bon, ça va le faire, t'inquiète, Myriam. En fait, ce que je me suis dit à ce moment-là, et pourquoi j'ai pas enlevé mon voile, je me suis dit, de toute façon, tout ce qui doit arriver arrivera. Ok ? Et toi, tu restes aligné à tes valeurs, et de toute façon, t'as le droit, et t'es droite dans tes baskets, donc de toute façon, t'y vas. Donc j'y suis allée, j'ai ma pote, une de mes potes qui est passée avant moi, et là, c'était l'oral de français, du coup, je rentre, une dame d'un certain âge, j'arrive pas à déceler dans son regard ce qu'elle se dit, je fais mon show, du coup, c'est super, je tombe sur le texte que je connaissais vraiment par cœur, et je termine en dépassant l'horaire, parce que tu sais, t'avais 20 minutes, avec 10 minutes de questions-réponses. Et là, je termine, et elle m'applaudit. Donc je me dis, ok, qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, vraiment bravo, je dois vous avouer quelque chose, quand je vous ai vu entrer, je m'attendais pas à ça. Ok, merci. Bon, honnêtement, ça pourrait faire plaisir, tu vois, ce genre de remarque, mais ça m'a pas fait plaisir. Parce que je me suis dit, bon, c'est cool, ça veut dire que tu vas avoir une bonne note. Mais en moi, je me suis dit... tu as le fardeau de représenter toutes les autres, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'es pas une élève comme les autres, tu représentes quelque chose, en fait, tu vois. Et là aussi, je m'en suis rendu compte, enfin, tu vois, cette phrase-là, elle a été lourde, en fait. Et bon, bah, c'était cool, hein. Après, elle était sympa, tu vois, elle a fait son taf, j'ai une super note. D'ailleurs, j'ai eu mon bac avec mention, j'ai presque failli avoir la mention bien, j'ai eu 13,8 de moyenne. Et du coup, j'ai écrit à... Myriam. J'étais obligée, tu vois. J'étais obligée, surtout quand tu sais que dans sa classe, personne n'a eu le bac à part moi. Et que j'étais la seule voilée quand même. Donc je lui ai écrit un message en lui disant « Merci, Madame A. J'aurais quand même dû vous écouter. Parce que si j'avais enlevé le voile, j'aurais peut-être pas eu 18, j'aurais peut-être eu 19 ou 20. Mais merci, merci. Je vous écouterai la prochaine fois. » Voilà. Ça, c'était l'épisode du bac.
L'épisode du bac. Moi, cette histoire, elle me remue dans tous les sens.
Mais tu veux savoir, ce qui est drôle, je ne sais pas si je te l'avais dit ou pas, c'est que le mec qui m'a interpellée au début et qui s'est assis à côté de moi et qui m'a dit de dégager, clairement, hein, c'est un adulte qui s'adresse à une ado en pleine construction, je l'ai recroisé dans une manifestation, 2-3 ans après, pour la Palestine. Il était avec ses copains de la CGT et j'ai couru. Oh, que j'ai couru. J'ai dit, hey, toi là. Je connaissais son nom, bien évidemment, t'oublie pas. Et il s'est retourné, il m'a dit, oui, on se connaît? J'ai dit, oui, on se connaît. Vous étiez pion il y a quelques années pendant les épreuves du bac au polyvalent. Vous m'avez dit de dégager parce que j'avais un voile. Qu'est-ce que vous faites là? Et là, il est devenu rouge, vert, jaune, bleu, violet, l'arc-en-ciel. Ses copains savaient plus se mettre. Et j'ai dit, bah, moi, je suis là, je suis toujours debout. Et je suis toujours alignée à mes valeurs, tu vois.
C'est une belle revanche. Roxane, j'ai l'impression que tu as envie de rebondir.
Oui, c'est une belle revanche. Ouais. Je m'attendais pas au rebondissement. Ah oui. Pardon, je m'attendais pas au rebondissement final. Magnifique, quoi.
Ouais, tu vois.
Ouais, et en même temps, c'est vrai ce que tu dis sur ce truc de avoir un moment ce truc de tu te rends compte que tu représentes des gens dans certains cercles en fait,
ouais,
et
c'est
que
ça.
Du coup, ça fait un poids énorme à porter, quoi.
Exactement.
Ouais. Enfin,
on en reparlera après. On en reparlera. On en reparlera plein de fois tout au long de plein d'émissions.
Ouais.
Il nous reste un peu de temps, pas beaucoup de temps. J'ai encore envie de t'écouter beaucoup parler. Mais surtout, j'ai envie, si ça vous va, de te faire rebondir. Non, je te lance pas un happening musique. Je sens que t'es dans les starting blocks, Roxane, mais. T'inquiète, on est encore là parce qu'on a encore une petite pépite de R&B en réserve. J'aimerais que tu nous parles, si tu as envie, de la couture.
Ouais.
De la couture, de ton travail, de comment tu t'y es mis, de qu'est-ce qui t'a poussé à... Et parce que c'est aussi comme ça que je te connais et que...
Ouais.
Et voilà.
Alors moi, je suis multicasquette. Ça veut dire que, en fait, je suis multicasquette, j'ai de l'aisance un peu dans tout. Et j'ai une phrase que j'aime bien, qui me caractérise assez, c'est que je me passionne de tout, mais que je tiens à rien. C'est-à-dire que, tu vois, c'est le pile et le face. Mais voilà, c'est que j'aime tout, en fait. Donc, ça a été difficile hein, pour moi de trouver quelque chose vraiment qui avait du sens pour moi et qui me plaisait. Donc, la couture, effectivement, c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé. Il y a ma mère qui avait acheté un jour une machine à coudre à la Redoute. Et d'ailleurs, je l'ai encore. Et je l'aurai toute ma vie, je pense, cette machine à coudre. Peut-être un jour, si j'ai un magasin dans les Champs-Élysées, sur les Champs, je la mettrai, tu vois, en vitrine. Ça peut être bien. Mais en gros, je faisais de la couture à cette époque-là. Il n'y avait carrément rien. Donc moi, j'ai porté le voile très jeune. Je l'ai porté à l'âge de 13 ans. Ça s'est fait hyper naturellement. J'ai ma mère qui portait le voile, j'ai ma grande sœur qui portait le voile, et j'ai plein de copines qui le portaient. Puis comme j'avais pas cet obstacle, 1, 2, 3, cet obstacle-là, justement, de devoir l'enlever à l'école, etc. En fait, je me posais pas de questions, quoi. J'étais qui j'étais, comme je voulais, où j'étais, enfin, tu vois. Et à cette époque-là, donc du coup, ça fait bien 20 ans. Ouais, ça fait 20 ans. Il y avait rien, il y avait absolument rien en fait sur le marché qui correspondait en fait aux tenues voilà que tu portes quand tu as envie de t'habiller un peu large, un peu pudique, etc. À part des djellabas moches et vieillottes que ma grand-mère a ramené du bled, tu vois. J'en ai porté, hein. J'ai encore des photos que j'ai envie de brûler, mais je les garde, tu vois, juste parce que quand même ça fait partie de l'histoire. Mais c'est juste pour ça. Elles étaient vraiment affreuses, t'avais des épaulettes, des gros boutons, des tissus immondes, enfin vraiment, non. Et du coup, on s'est dit, bah écoute, on va acheter des tissus au marché de Bagatelle, là, de Bellefontaine. T'avais un gars super sympa qui vendait des tissus à 1 euro le mètre. Et puis t'avais surtout des couleurs unies, puis t'avais du choix, tu pouvais faire des choses sympas. Et là, j'ai commencé en fait à me coudre mes premières robes, donc on appelle ça des abayas. Et j'en ai fait pour mes copines aussi parce qu'elles adoraient. Elles trouvaient que la coupe était sympa, elle était moderne, elle était simple, minimaliste. Et du coup, bah, je le faisais parce que j'en avais besoin, que mes copines en avaient besoin. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, on était à la mosquée et on a croisé une dame qui voulait aller au pèlerinage. Sauf que bah, du coup, comme il n'y avait rien, elle trouvait rien de blanc, en fait, elle voulait des robes blanches, des foulards blancs et tout ça, et j'ai ma copine qui dit « Mais Myriam, elle peut t'en coudre ?» Elle est couturière. Alors déjà, tu sais, et là, je l'ai regardée en disant « Non, mais non, mais... » Et tu sais, moi, je suis quelqu'un qui, voilà, je vais pas me décomposer, donc je suis là, genre, en mode « Qu'est-ce qui se passe ?» Tu sais, je regarde, et là, elle me dit « Ah oui, et tout ça, combien tu vends ça ?» Alors moi, j'avais jamais vendu, j'avais jamais commercialisé de produits, encore moins que... Enfin, pour moi, j'étais pas légitime à vendre des vêtements que je cousais... en m'allongeant par terre sur des vêtements et en traçant la craie autour de moi, tu vois. C'est l'école de stylisme à la Myriam. Du coup, je dis, bon, ben, il faut déjà que je trouve le tissu. Donc, après, il y aura la couture. Enfin, je lui ai fait 40 euros, je pense, les trois tenues. Non, 20 euros la tenue. Donc, il y en avait trois, ça fait 60 euros. Et écoute, ben, je lui en ai fait une beige, une blanche, une gris clair. Et c'était ma première vente et ma première cliente. Et elle était hyper satisfaite. Donc là, je me suis dit, je tiens quelque chose. Parce qu'il faut savoir que voilà, je suis issue d'une famille modeste. Moi, mon père, il s'en fout, pardonnez-moi du terme, hein, mais du fric, de l'argent. Vraiment, genre, il est anticapitaliste à mort, tu vois. C'est que de la récup, de la seconde main. Donc du coup, c'est débrouille-toi, tu vois. Il te jette dans la fosse aux lions, tu sais. C'est spartiate, quelle est votre profession, tu sais. Et là, du coup, je me dis, bon, bah là, je vais me faire des thunes, je vais pouvoir m'acheter des Air Max. c'est trop cool. Et là, avec mes 60 euros, je les claque, 52 euros la paire, je m'en rappelle. Et puis, je continue, du coup, je commence à poster des annonces. Un peu à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, tu vois. Donc, t'avais le Bon Coin, un petit peu, t'avais des forums, c'était vachement des forums à cette époque. Et bah là, je commence à me faire des petites clientes, mais c'était vraiment un petit peu au compte-gouttes. Parce que voilà, je savais pas trop encore ce que je voulais faire. Donc je le faisais, mais en fait, j'avais pas un objectif financier proprement derrière, tu vois. C'était vraiment de la passion, en fait, et de répondre à des besoins, et surtout de prendre le temps. En fait, c'est quelque chose que souvent on a tendance à pas faire. Et moi, ça a toujours été quelque chose d'important, c'était de prendre le temps et de vivre. Genre, tu vois, c'est pas ce que tu fais que tu vas retenir, en fait, c'est ce que tu ressens, tu vois. Et c'était hyper méga important pour moi. Du coup, c'est comme ça que j'ai commencé. Sauf que, bah voilà, entre-temps, bah, j'ai voulu être EduxPé. Donc, j'étais un petit peu partagée entre les deux. J'ai fait des stages. J'ai eu l'occasion de faire des stages, du coup, en couture, où j'ai rencontré une super maître de stage, Jeanne Brevet, qui est de Côte d'Ivoire et qui avait un magasin rue Bayard, enfin, à côté de la rue Bayard. Et là-bas, j'ai pu faire un stage, du coup, qui m'a beaucoup, beaucoup donné confiance en moi. Parce que bah, du coup, moi, je sortais de nulle part. Hein. Donc, je suis arrivée, je lui ai dit, écoute, moi, je ne sais rien faire. De toute façon, il vaut mieux rien savoir faire que dire je sais tout faire et après, tu te fais tacler, tu vois. Donc, moi, je préfère venir en disant je ne sais rien faire. Et en plus, il y avait une nana qui était dans une école de stylisme et tout. Donc, je me disais, bon, on vient pas de la même école. Hein. Et en fait, elle m'a dit que j'avais l'œil, etc. Enfin, c'était vraiment une super expérience. C'était hyper enrichissant. Et puis, moi, j'avais le côté commercial. En fait, c'est quelque chose que j'ai toujours eu. Et du coup, je l'ai vachement aidée aussi dans son magasin. Elle adorait ça. Du coup, même après mon stage, j'ai continué à travailler avec elle. Et ce que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, c'est que à la base, comment j'ai pu faire ce stage, j'avais intégré, en fait, si tu veux, un dispositif, en fait, c'est un genre d'organisme Je pense que j'avais été redirigée par la mission locale. Et à la base, j'y avais été parce qu'en fait, tu pouvais gagner 130 euros par mois, tu vois. Et je me suis dit, ouais, c'est trop cool, tu vois. Et en fait, les gens t'aidaient à constituer ton CV, à faire des recherches, un peu à t'orienter, justement. Donc, je me suis dit, bon, bah voilà, c'est cool. Moi, je prends les 130 euros et ça me va très bien, tu vois. Et en même temps, tu pouvais faire des stages. Donc, ça, c'était bien. Tu avais des conventions. Donc, je me suis dit, écoute, tu vas faire des stages dans le milieu spécialisé, là, de l'éducation et spécialisée, etc. Et puis, dans la couture. Et donc, c'est là que j'ai pu faire ça. Sauf que, bah voilà, tu vois, j'ai jamais eu de réflexion à proprement dit sur mon voile. Mais tu sens toujours cette espèce de. Presque de l'arrogance, tu vois, de la. Tu sais, du défaitisme. On te regarde un petit peu en te disant, tu sais, tu te tires une balle dans le pied, là. Tu n'iras nulle part. Il faut le comprendre. Oui, d'accord. Et là, écoute, ce stage, quand je l'ai entendu, je me rappelle parce que j'étais en train de coudre. Parce qu'en fait, la fin de mon stage, en fait, elle nous avait demandé de choisir la pièce qu'on préférait et de la coudre. On avait le droit d'imiter un de ses modèles. Du coup, j'étais en train de découper celui qui m'avait plu, etc. Et je l'ai entendu avec ma tutrice de stage. Et si tu veux, elle a tellement vanté mes mérites que moi, j'en ai pleuré parce que...
un souvenir émouvant.
Ouais, tu vois, parce que moi, je croyais pas en moi, en fait.
C'est trop bien.
En fait, tu vois, j'avais toujours dans cet esprit que j'avais pas de chance, tu vois. Et elle a dit, ouais, elle va aller hyper loin, cette fille. Et tellement pour te dire, quand je suis partie, bah, elle m'a offert une surjetteuse professionnelle qu'elle n'utilisait plus parce qu'elle allait changer son matériel. Et ça m'a vachement aidée, en fait. Enfin, je me suis dit, mais ça y est, j'ai tout, tu vois. J'ai la machine à coudre de la redoute de ma mère, que j'ai piquée. Et j'ai une surjetteuse pro, tu vois, même si, voilà, des fois, t'avais les fils qui s'emmêlaient. Mais voilà, j'étais équipée. Je me suis dit, ça y est, ça y est. Ça y est, je vais faire concurrence à Zara, là, tu vois. Et en fait, c'est le fait, tu vois, d'entendre des adultes qui te connaissent pas et qui te jugent pas, tu vois. Et qui te donnent de la force, en fait. Franchement, j'oublierai jamais, tu vois.
En plus, j'ai le souvenir que tu m'avais dit que ce qui y avait quelque chose qui t'avait aussi touché dans ce qu'elle fabriquait comme vêtements, c'était qu'elle utilisait le tissu de
africain
et enfin du pays d'où elle venait pour faire des pièces.
Exactement.
Et du coup, que ça correspondait un peu à toi, ce que t'avais, ce que tu recherchais.
Je trouvais ça génial, en fait. Ouais. Je trouvais que c'était un mélange, en fait, de civilisation, de culture, d'art, en fait, parce que bah moi, la mode, pour moi, c'est une forme d'art, tu vois, c'est une forme d'expression de soi, une forme de liberté. Et je trouvais ça trop beau. Et en plus, elle était hyper talentueuse. Vraiment, tu vois. Et puis, c'était une personne avec une sagesse énorme. Ouais, elle était incroyable.
Et du coup, tu te retrouves avec tout ce matériel.
Ouais, du coup, je l'installe chez mon père. Parce qu'entre-temps, j'étais repartie sur Naïoux. Donc, je l'installe tout ça chez mon père. Je fais mes vêtements et tout. Et là, en fait, le bouche à oreille opère. Donc, moi, j'avais des petits échantillons de tissu auquel j'avais agrafé des bouts de papier avec des numéros que je mettais dans un sac de congélation. Voilà. Et je me baladais avec deux valises, avec un petit peu de d'accessoires, en fait, que j'avais commencé à acheter un petit peu à droite à gauche et que je revendais un peu plus cher. Et voilà, je faisais des rendez-vous, je faisais du sur-mesure, en fait. Et là, mon fichier client, en fait, si tu veux, s'est étoffé, etc. Et c'est là où j'ai vraiment lancé, en fait, mon activité. Sauf qu'en même temps, je rentrais en école d'éduc parce que du coup, j'ai passé le concours et je l'ai eu. Du coup, je savais que j'allais être confrontée, voilà, à deux réalités et que, ben voilà, en fait, je voulais lâcher ni l'un ni l'autre. Je voulais pas renoncer parce que les deux me parlaient, en fait. Donc, je me suis dit, bon, je vais y arriver. De toute façon, j'ai toujours eu l'habitude, voilà, de courir plusieurs lièvres en même temps, même si c'est quelque chose qu'on nous déconseille. Moi, je trouve ça super chouette. Tu vois, ça fait du suspense, des rebondissements et puis voilà, c'est cool. Et du coup, quand j'ai vu que je passais, par contre, que j'allais passer 3 ans à l'école, je me suis dit que j'allais pas avoir le temps de faire de la couture. Et c'est là, en fait, où j'ai basculé sur de l'achat-revente. Donc, j'ai commencé vraiment à faire un travail beaucoup plus structuré, à chercher des fournisseurs, à l'époque, j'avais un skyblog sur lequel je vendais. Là, j'ai développé un peu les réseaux sociaux, etc. Et j'ai mené de front, en fait, les deux. J'ai vraiment mené de front les deux, ouais, les deux activités.
Et comment on en arrive à Mimosa Store ?
À Mimosa Store ? Ouais. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que l'école d'éducation spécialisée, ça a été génial. Ça a été une expérience hyper enrichissante. Je ne sais pas si j'ai le temps d'en parler un petit peu ou pas.
Tu peux en dire quelques mots.
Ouais.
Tu as 5 minutes top chrono pour en dire quelques mots.
Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis rentrée, moi, j'étais pleine d'espoir et tout ça. Enfin, je me disais que vraiment, les éducateurs spécialisés, c'était eux qui pouvaient changer le monde, en fait. Vraiment. Je me suis dit, ouais, c'est vraiment, c'est ouais. t'es dans le feu de l'action et tu fais quelque chose de bien. Tu vois, t'aides les gens. Et j'ai toujours une phrase que j'ai adorée, c'est « Il y a meilleur que le bien, c'est celui qui le fait. » Et moi, je voyais les éducateurs comme ça, en fait. Je me disais, mais c'est des gens incroyables. Sauf que, en fait, bon, bah déjà, ça a mal commencé. Moi, j'ai passé mes examens super bien, tout s'est bien passé, jusqu'à la pré-rentrée. Donc, quand même, j'ai passé 2 euros, personne ne m'a parlé de mon voile, tellement je me suis dit, oh, je suis transparente. Pour la première fois de ma vie, youhou ! Ils ont rien vu ! C'est des gens vraiment super bien ! Sauf qu'à la pré-rentrée, je vois une nana qui me regarde par-dessus ses lunettes, comme ça. Et 5 minutes après, il va falloir aller voir le directeur. D'accord, je connais la chanson. Donc là, je me retrouve dans le bureau du directeur, une fois de plus. Et là, il me dit, ça va pas être possible. Vous pouvez pas être voilée. Bon, ben là, il va falloir m'expliquer, monsieur, en fait, parce que je suis dans des études supérieures. Quand même, j'ai passé mes examens, j'ai eu 2 entretiens individuels avec mon voile. Vous m'avez rien dit. On vous a pas vu passer. Ah, d'accord, d'accord. Moi, tu sais, des fois, tu te sors des phrases, tu te dis, mais c'est une blague. Et là, il me dit, et puis... justement, elle vous en a parlé à l'entretien. J'ai dit, qui m'en a parlé? Qui m'a parlé de quoi? Et en fait, j'avais eu un entretien avec une prof de droit de l'établissement. Et il me dit, bah, elle vous a dit, vous avez conscience que vous ne pourrez pas poursuivre votre scolarité avec le voile. J'ai fait, ah bon? Et du coup, je lui ai répondu quoi? Bah, que vous alliez l'enlever. Et là, j'ai éclaté de rire, hein, parce que de toute façon, il n'y a que ça à faire, franchement. Et je lui ai dit, écoutez, je vais appeler mon avocat et vous allez appeler vos avocats. Et elle me dit, on n'est pas obligé d'en arriver là. Je fais, bah si, parce que là, bon, bah clairement, il y a un moment donné, c'est pas possible. Moi, je connais mes droits. Il fait, oui, on va se renseigner doucement. Vous vous renseignez de votre côté, on se renseigne. Et puis, une semaine après, il m'appelle pour me dire qu'effectivement, j'avais le droit d'étudier voilée, que c'était des études supérieures, que les filles allaient à la fac avec le voile. Tu sais, on avait l'impression que c'était un truc extraordinaire. Non, mais oui, encore heureux, en fait. Elles devraient même avoir le droit de le porter dans les collèges et dans les lycées, les filles. Enfin, bref, passons. Et du coup, il me dit, bon, allez, crevons l'abcès, si vous avez des choses à dire, dites-les et tout ça. Et puis là, bon, moi, j'ai quand même repris sa plaquette publicitaire, hein, parce que c'est du marketing, finalement, dans laquelle il vantait les mérites d'être un institut implanté dans un quartier populaire pour être dans la tolérance, aligné à leurs valeurs. Et je leur dis, mais quand même, vous vous rendez compte, à vos propres étudiants, que vous allez former pour être des personnes empathiques, qui vont, en fait, être, comment dire, des garants de la dignité de l'autre, vous leur demandez de s'asseoir sur leurs droits les plus fondamentaux. Eh ben, ça commence bien. Là, il m'a dit, non, mais vous comprenez. Non, je comprends pas. Je ne comprends pas. Bref, j'ai fait ma scolarité, encore une fois, haut la main. Je suis sortie parmi le top 3 de la promo. Donc, ça a été quand même hyper enrichissant. Il y a eu des déceptions, mais il y a eu aussi d'énormes belles choses, si tu veux, ne serait-ce que les rencontres que j'ai pu faire, parce que bah, du coup, à ce moment-là, quand ils m'ont dit que je pouvais pas étudier, alors je connaissais personne dans ma promo, et il y a un gars de ma classe qui, quand je leur ai dit, bon, bah, je sais pas si on se reverra, il a dit, mais comment ça? Et quand je lui ai dit, bah, ils m'ont dit que j'avais pas le droit d'être là avec le voile, il a fait, révolution, on va faire une pétition, personne vient en cours. Et du coup, j'étais là, genre, si, les éducs, c'est quand même des bons gars. Tu vois, il est toujours comme ça, d'ailleurs. Et du coup, bah, franchement, non, ça a été des chouettes rencontres. J'ai encore beaucoup de copains que je me suis fait là-bas. Et on avait des... Voilà, les mêmes valeurs. Enfin, c'est agréable d'être avec des personnes qui partagent les mêmes choses. Après, j'ai pas fait ça, si tu veux. J'ai pas vraiment fait ça, au final, pour devenir éduc. Moi, j'ai toujours été quelqu'un d'indépendante. Et c'est pour ça aussi que, du coup, à côté, j'ai pas lâché mon entreprise. Parce que c'est quelque chose qui me stimulait et dans lequel je m'épanouissais. J'aimais construire, j'aimais faire des choses. Et si tu veux... L'école, l'éducation, c'est quelque chose qui m'a toujours touchée. J'ai fait du scoutisme aussi, tu vois. Donc vraiment tout ce qui est les valeurs éducatives, pédagogiques, comment tu aides un enfant, surtout un adolescent, à se construire. Parce que moi-même, j'étais passée par là. Et je me suis dit, mais moi aussi, j'ai envie de faire ça. Et moi aussi, j'ai envie d'être... Bah, tu vois, la force que t'as pas eu à un moment, une fois que tu l'as, bah, t'as envie de la donner, en fait, et de la partager. Et si tu veux, j'ai un peu pris le côté de mon père où... Voilà, le capitalisme, tout ça, c'est pas trop mon truc, tu vois. Je fais pas les choses pour le pognon et j'espère que je le ferai jamais. Et du coup, mon idée de base, c'était de construire une école, tu vois. Donc je me suis dit, t'es éduque, c'est cool, t'as fait du scoutisme, c'est génial. Et en plus, maintenant, tu montes ta boîte. Donc, ta boîte va servir à financer une école privée qui sera gratuite. Parce que, en fait, je trouvais ça quand même dingue que les gens soient obligés de payer... ou de vendre un rein pour scolariser leur enfant dans un établissement qui leur convient, tu vois. Ça me dépassait, tu vois. Et du coup, je suis partie sur cet état d'esprit. Bon, j'étais jeune, hein, donc j'étais très, très loin des réalités entrepreneuriales, fiscales, etc. Enfin, tu vois, c'était un projet un petit peu fou. mais qui m'a quand même conduit, parce que chaque fois que j'avais des périodes de doute, ben en fait, je me reposais les questions de pourquoi je faisais les choses, qu'est-ce qui était important pour moi. Et bah, si tu veux, voilà, quand j'ai eu mon diplôme d'EduxPé, j'ai pas exercé. Alors j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses, honnêtement, que j'ai pu retranscrire dans mon activité, ne serait-ce que la communication non-verbale, que l'écoute. C'est parce que du coup, bah, je voulais faire un stage, à la base, ce qui m'intéressait, c'était d'être éducateur spécialisé dans les quartiers, dans la prévention, et j'ai pas pu. Enfin, c'était un milieu déjà où il n'y avait pas beaucoup d'enveloppes en termes de subventions pour rémunérer des... parce que c'était des stages de 9 mois. Donc, c'est ça, c'était un petit peu compliqué. Du coup, je me suis retrouvée, puis après j'avais aussi la problématique du voile, je me suis retrouvée finalement à faire mon stage dans une association que j'avais déjà... dans laquelle en fait j'avais déjà pu faire un tout premier stage de 2 mois et avec qui c'était très bien passé, donc qui était en Île-de-France à Saint-Denis. Et du coup justement, on en parlait tout à l'heure là, il y a un film qui a été diffusé sur cette association qui s'appelle Hors Normes, et c'est là en fait où j'ai travaillé avec des enfants autistes. Et finalement, jamais de toute ma vie j'aurais cru être attirée par le handicap ou des choses comme ça, et je me suis rendu compte, en fait c'est l'étape qui m'a définitivement affranchie du regard des autres, mais définitivement. Parce que si tu veux, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, voilà, je m'en fichais d'avoir les cheveux ébouriffés, d'être mal habillée, de ne pas être accordée. Enfin, pour te dire, quand mon père, il était saisonnier, donc j'ai une petite anecdote, c'est que quand il ouvrait des boutiques, j'avais remarqué que les gens, quand ils te regardent, ils regardent tes pieds, puis après ils remontent vers le haut. Et ça m'agaçait. Du coup, je me mettais en chaussons. Et du coup, je m'amusais de voir en fait leur regard sidéré, de voir une nana devant son magasin en chaussons et de me regarder et de les regarder en train de leur faire des grimaces, tu vois. Et vraiment, à cette période-là, j'avais 12-13 ans et je m'en fichais complètement. Sauf que voilà, passé la période adulte, ben voilà, tu as d'autres appréhensions, ton corps change, tes relations changent et tout ça. Donc on va dire que je m'étais un petit peu remis sur les rails de la normalité, tu vois. En tout cas, j'essayais pas d'y aspirer, mais voilà, de quand même faire des choses un peu comme tout le monde, tu vois. Et là, de le fait de travailler avec des enfants autistes, je me suis retrouvée à chanter dans la rue parce qu'il fallait les canaliser, etc. Et du coup, j'en avais rien à faire que, ben voilà, qu'on puisse me regarder de travers ou qu'on puisse se dire « Mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là ? Mais c'est qui ces enfants avec elle qui bavent ?» Enfin, tu vois, parce que honnêtement, autour du handicap, il y a quand même aussi des attitudes qui sont terribles, tu vois. Et c'est là où je me suis affranchie complètement du regard des gens, je me suis libérée, je me suis... émancipée complètement, vraiment. Et ça, c'est là en fait où vraiment ma société aussi, elle a connu un grand essor. Et j'ai développé, voilà, ma première boutique en ligne, qui a été une super aventure. Personne n'y croyait, honnêtement, personne n'y croyait, parce que tout le monde me disait, mais attends, mais un magasin de hijab, mais ça marchera jamais. Enfin, les hijabs, tu les achètes vite fait au marché, il n'y a pas de... Et moi, ce qui m'agaçait, c'est que les filles musulmanes soient considérées comme des clients de seconde zone. Ça, c'est un truc que je comprenais pas le concept, en fait, tu vois. Donc, je voulais vraiment proposer quelque chose de complet, en fait, une gamme de vêtements complet, des collections stylées et qui s'adaptent à tout le monde. Et en fait, qu'ils soient dans des canaux de distribution classiques, ça veut dire des magasins, en fait, des magasins de vêtements. Alors, à l'époque, c'était super compliqué parce que quand je faisais, tu vois, des formations un peu sur l'entrepreneuriat, etc., je savais pas comment présenter mon activité. Je savais pas si je devais dire des vêtements cultuels ou des vêtements culturels. Enfin, il n'y avait pas de mots. Alors qu'aujourd'hui, bah, tu vois, le marché a vachement évolué. On parle de modest fashion, par exemple, pour catégoriser, voilà, ce type de vêtements qui s'adresse essentiellement aux filles musulmanes ou en tout cas celles qui désirent s'habiller amplement et tout ça. Donc voilà, j'ai ouvert un petit magasin à Papus qui s'appelle Mimosa Store. J'ai une boutique en ligne, maintenant je vends à l'international, j'ai des employés, enfin vraiment j'aurais pas imaginé passer de ma pochette de sac congelé là avec mes bouts de tissu, voilà, à un magasin qui tourne avec des, voilà, des gens qui viennent faire des stages. Enfin, la première fois où j'ai des demandes de stage, je me suis dit genre, oula, c'est moi qui forme les gens maintenant, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Donc ouais, c'était chouette.
Trop bien, merci beaucoup de t'être livrée à nous comme ça et de nous avoir partagé ton parcours. Je ne sais pas si vous avez envie de rebondir avant.
Ah bah, c'est hyper bien. Après, ça coupe le souffle parce que là, j'ai l'impression vraiment. Tu parles hyper bien, tu as des punchlines. On sent que tu es très sociable. Que tu, dois... enfin, tu racontes comment tu te lis facilement d'amitié et tout. Mais du coup, non, ça coupe un peu le souffle là. Je ne saurais pas quoi dire.
Moi, je voudrais rebondir sur ça parce que du coup, tu sais, je disais que. Que bah du coup quand tu bah la phrase là où elle m'a dit je m'attendais pas à ça et que je me suis rendu compte que je portais le poids du bah d'une communauté en fait et que je représentais, bah, c'est vrai que c'est hyper lourd. Alors moi j'avais la force de le porter et je comprenais pas trop qu'on puisse baisser les bras, etc., parce que j'ai toujours été hyper tenace jusqu'à bah, tu vois, là, moi, je suis maman, j'ai quand même une charge mentale qui est beaucoup plus conséquente que quand j'avais 17-18 ans et tout ça. Et je me rends compte aujourd'hui que c'est pas normal de vivre tout ça. Et que même si ça a été, pour moi, ça a contribué en fait à ma construction. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme si je m'étais épanouie et construite dans l'adversité. En fait, je me suis jamais... Des fois, tu vois, t'as des gens qui vont te dire « Ah, t'as des galères quand même !» Mais je les ai jamais considérées comme des galères, honnêtement. Et après, c'est quand je réfléchis, je me dis « Ah oui, quand même, ça se dit pas, ça se fait pas, c'est grave !» Je savais sur le coup, mais je le prenais... En fait, c'est un obstacle, tu le contournes. En fait, c'est du béton, tu sautes pour sauter plus haut. Tu vois, c'est dur, ok, tu mets toute ton impulsion, toute ta force, et de toute façon, tu vas sauter plus haut. Tu vois, et c'est ce que je me suis toujours dit, jusqu'à arriver justement à cet âge-là, bah, aujourd'hui, et avec le recul et l'expérience, et puis peut-être un petit peu la sagesse, un peu moins de folie, tu vois, parce que j'étais quand même un peu folle. Et je me dis, j'ai pas envie que ma fille vive ça. Genre, c'est hors de question. Moi, j'ai pas envie que mes gamins, ils soient là à se battre, alors qu'en fait, ils devraient être sur... En fait, ils devraient mettre leur énergie et leur rêve et leur force dans d'autres choses, en fait. Tu pourrais être encore plus productif, en fait, si on venait pas puiser ton énergie, tes espoirs, tes rêves... à t'obliger, en fait, à te justifier d'avoir le droit, en fait. Et du coup, je trouve ça quand même fou.
Ouais, bah c'est hyper beau. Je trouve que ça peut être un bon mot de la fin. Il y a aussi les hijabeuses, dont je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un groupe de footballeuses ont lutté devant le Sénat pour faire entendre leur droit à jouer au foot en portant le hijab. Et j'ai l'impression que depuis qu'elles sont passées, ça fait vraiment de rendre audible un discours qui défend les meufs qui portent le voile. Alors que jusque-là, c'était vraiment... oui, voilà, on parlait des islamo-gauchistes parce qu'on a l'impression que c'était tellement isolé. Il fallait vraiment que ça soit des gens très à gauche. En fait, il y avait très peu de discours. Et maintenant, c'est un discours qui devient audible. Là, il y a vraiment... on voit des politiques, des élus, des meufs qui sont pas voilées, qui sont blanches, qui jouent au foot, qui les défendent, et avec un discours tout à fait évident de, en fait, la laïcité, c'est pour justement donner l'accès aux droits à tout le monde de la même manière, et d'avoir les mêmes droits et de pratiquer sa religion, que toutes les religions puissent être pratiquées. Et en fait, c'est pas normal de refuser l'accès, que ça soit à l'école, au travail ou sur les terrains de foot, quoi. Et c'est vrai ce que tu dis, ce truc des obstacles, à la fois ton discours il est hyper powerful, et à la fois c'est ça, c'est que t'as quand même plein de ressources, t'as eu une super éducation qui t'a donné plein de force, ton père il t'a hyper soutenu et tout, enfin, bah, ça t'a permis de développer voilà, une personnalité incroyable et une force face à l'adversité incroyable, mais c'est intense ce que ça demande d'énergie. Et bon, voilà, effectivement, en fait, les gens, on est tous différents et on n'a pas tous les mêmes ressources. Et il y a des moments, voilà, dans la vie où ça va mieux, où ça va moins bien. On est un entourage qui est plus aussi, qui est plus présent que d'autres. Enfin, du coup, c'est quand même hyper dur de voir tout ce qui est mis en travers du parcours des gens, quoi. Enfin,
ouais.
C'est vraiment intense, quoi.
Moi, je pense qu'il y a une phrase que j'adore. C'est « Fais ce qui te plaît jusqu'à ce que ça plaise aux autres. » Et jamais l'inverse.
C'est génial. Non, mais franchement, moi... parce que je suis
les punchlines.
Ouais, c'est des bonnes punchlines. Franchement, je travaille avec des ados régulièrement et je me dis, Alors, je vais vous faire découvrir la radio, voilà. Je vais écouter ça. Tu parlais du film Hors Normes. Je trouve que ça fait un peu... Ça déploie la même énergie. On a l'impression d'être dans un film et tout. C'est
trop bien. Bah, en vrai, Roxane, on est le 8 mars. Je propose qu'on prenne le temps d'écouter les hijabeuses, si jamais ça te dit.
On jouera, on jouera, même si l'État ne veut pas, nous on jouera, pour un football meilleur, même si l'État ne veut pas, nous on jouera.
Au moment où je vous parle, en 2020, en France, pays dit des droits de l'homme, nous sommes des milliers de femmes à être privées de la liberté la plus simple qui soit, pratiquer notre sport favori. Pas n'importe quel sport, en effet, l'un des sports les plus populaires au monde, vous l'aurez compris, le football.
Pourquoi en sommes-nous privés ?
Parce que nous sommes des femmes.
Parce que nous sommes musulmanes.
Parce que nous portons le voile.
Parce que les arbitres de la FFF ne respectent pas notre choix, notre liberté de conscience, notre hijab.
Chaque jour de compétition, nous, femmes musulmanes portant le foulard, nous retrouvons privés de participation en raison de nos convictions.
Est-ce que je dois choisir entre mes convictions religieuses et le droit de pratiquer mon sport ?
Moi, Tara.
Moi, Laïsa.
Femme, footeuse, m'engage dans le syndicat des femmes musulmanes de l'Alliance citoyenne.
Pour avoir accès au foot en compétition, au football pour toutes.
Car porter le voile ne devrait pas être un fardeau.
Moi, Hayette.
Moi, Philomène.
Moi, Yousra, femme sportive musulmane, portant le hijab.
Engagée au sein de l'Alliance citoyenne,
j'élève la voix pour m'opposer.
M'opposer aux pratiques discriminantes, intolérantes et injustes des arbitres de la Fédération française de football.
Ces pratiques qui nous privent de nos sports favoris et nous enferment.
Je m'engage au sein du collectif Les Hijabeuses pour dire stop.
Je m'engage pour demander du changement,
pour interpeller la Fédération française de football.
Je m'engage au sein du collectif Les Hijabeuses.
Pour que les femmes qui portent le voile soient enfin considérées égales aux autres femmes. Pour qu'elles soient autre chose que leur foulard.
En faveur de la justice,
du changement, de l'égalité
et de la liberté.
Je dis non, je dis non,
je dis non, je dis non.
Je dis non aux pratiques discriminantes de la FFF.
Je dis oui à la pratique du foot pour toutes.
Je dis oui à un règlement tolérant.
Je dis non à la discrimination.
Merci à tous, on se retrouve très bientôt, j'ai pas les dates en tête, mais on se dit qu'on se suit à la radio, 92.2 sur Canal Sud, sur internet, canalsud.net, sur notre Spotify, La Vie des Nôtres, notre page Facebook, La Vie des Nôtres, et peut-être un jour, qui sait, TikTok, Snapchat, et puis tous les autres réseaux sociaux, on verra bien.
Bientôt Insta,
j'oublie souvent Insta. Merci Roxane pour la technique, merci Farah pour la chronique, merci Myriam pour le portrait, l'invitation de nous avoir fait confiance et de t'être livrée comme ça avec nous. On se retrouve bientôt et à vous les studios, à la suite. Je sais pas quelle musique passe après, mais au plaisir.
Petite sœur, je connais ta peine, ta douleur, les places qu'ils prennent dans ton cœur. J'étais la même petite sœur, petite sœur. Je te vois regarder par la fenêtre comme si c'était moi, comme si j'étais dans ta tête. Crois ma petite sœur, le silence et le froid, je connais par cœur, j'y suis passée avant toi. Je te vois attendre, attendre que tourne ta chance, l'âge tendre dans la différence. Et tu refais la liste de ce qui ne va pas.